Chapitre 61. Le bout du tunnel. Dimanche, 20 août 2000, 2h11, souterrain de l'île de Mornesay. Je regardais ma montre. Nous marchions déjà depuis près de 3 quarts d'heure dans ce dédale de souterrain. J'avais depuis longtemps renoncé à suivre mentalement le chemin que nous empruntions. À gauche, encore à droite, à gauche. J'étais définitivement perdu. Valerino pointait en permanence son arme sur moi. Impossible de fuir. Fuir où, de toute façon? Régulièrement, mes ravisseurs s'arrêtaient à un embranchement pour consulter le plan. Ils braquaient la lampe sur la vieille carte, discutaient un peu, puis reprenaient la marche au même rythme soutenu. Plus nous nous enfoncions dans les entrailles de l'île, moins les tunnels étaient entretenus. Les murs suintaient. L'odeur était parfois presque irrespirable. Souvent, des pans de parois s'étaient effondrés et il nous fallait escalader les décombres. Une fois, ils découvrirent un couloir complètement obstrué. Il fallut faire demi-tour pour trouver un autre chemin. Valerino proféra des jurons pendant 10 minutes. Tous semblaient très nerveux. J'avais renoncé à chercher à me repérer, mais par contre, j'avais acquis une certitude. Nous montions. Parfois, nous devions descendre quelques marches, parfois en gravir d'autres, mais le plus souvent, j'avais l'impression que les couloirs s'élevaient. Je réfléchissais. Le tunnel n'était pas très bas. Nous n'étions pas descendus profondément sous la terre. Donc si nous continuions de grimper, c'est que nous nous rapprochions des points les plus hauts de Mornesay, c'est-à-dire vers le sud-ouest de l'île, quelque part entre le port Saint-Argan et le phare des Enchaînés. Nous longions une interminable galerie. Elle s'achevait par un étroit boyau de pierre et de terre. Brigitte, Thierry et les autres adultes se faufilèrent avec difficulté dans cette ouverture qui devait faire moins de 60 cm de large. J'y entrai pour ma part sans problème. Brigitte éclaira un petit couloir sur la droite. « C'est là !» fit Thierry. « Pas trop tôt !» grogna Valerino. J'écarquillai les yeux. J'aperçus au milieu du tunnel une échelle vermoulue. Brigitte grimpa la première et souleva une trappe de bois. Thierry suivit à son tour, puis cet homme que je n'arrivais plus à appeler mon père. Jean-Louis Valerino ferma la marche, toujours derrière moi. Je passai la tête par la trappe. Brigitte et Thierry éclairaient le lieu avec leurs lampes. Je découvris une petite pièce poussiéreuse aux épais murs de pierre grise. Une cheminée qui n'avait pas dû être utilisée depuis des décennies. Au mur, par terre, des outils de bois et de fer, des râteaux, des pelles, une faux, de vieux seaux rouillés. Sur la gauche, une table était couverte de vieilles toiles d'araignée. Autour d'elle, quelques chaises. Un vaisselier de bois clair, lui aussi inutilisé depuis des lustres. Je me trouvais dans une ferme abandonnée. Une lumière presque aveuglante, bien plus puissante que les torches de mes ravisseurs, éclaira soudain la pièce, à peine quelques secondes, puis la pièce fut plongée à nouveau dans l'obscurité. Je compris aussitôt. Le phare des Enchaînés. Il ne devait pas être très loin. 1 kilomètre, peut-être. Cela me confirmait que nous devions être sur un des points hauts de l'île de Mornesay. Valerino était occupé à secouer les portes et fenêtres de la pièce, sans doute pour vérifier qu'on ne pouvait pas les ouvrir facilement de l'intérieur. La lumière du phare jaillit. J'observai les issues. 2 portes de bois qui menaient je ne sais où. 1 fenêtre. Pas de volet apparemment, mais une couche de poussière de plusieurs millimètres qui, même s'il n'avait pas fait nuit, aurait en grande partie opacifié la pièce. Thierry, du revers de sa manche, essuya la table et posa le plan des souterrains de mon père bien à plat. « Approche, Colin. » Sa voix n'était pas agressive. « Regarde, nous sommes ici, au sud-ouest de l'île, dans la ferme abandonnée de Lucien Verger. Tu n'as certainement jamais entendu parler de lui. C'est pourtant lui qui exploitait les terres de l'abbaye avant la Première Guerre mondiale. Il louait les terres, mais sa ferme était située un peu plus loin, au sud de l'île, ici. C'est exactement sur cette ferme que ton père, il y a 10 ans, sur ce plan qui t'était destiné, a tracé cette croix rouge. On peut donc en conclure qu'il voulait te désigner l'emplacement du trésor, la folie Mazarin.
« Faut lui demander !»
parvins-je à articuler. L'homme qui prétendait être mon père ne fit aucun commentaire. Valerino cria presque.
« On a fouillé de fond en comble cette foutue ferme depuis ce midi, depuis qu'on a ce plan entre les mains. Rien !»
Alors, il commença à me saisir la gorge de ses mains sales, mais Thierry le retint.
« Mollo, Jean-Louis, ça sert à rien de le brusquer. »
Il se retourna vers moi, se forçant presque à me sourire. Je le haïssais peut-être encore plus que ce Valerino ou que ce vrai faux père. « Colin, » fit mon oncle d'une voix mielleuse, « on est au bout de la route.
Ton père pensait avoir trouvé ce trésor. Il t'a laissé un plan il y a 10 ans qui mène ici. Il t'a laissé aussi un autre indice, dissimulé dans tes souvenirs. Il te suffit de le retrouver. Tout sera terminé alors. Je ne répondis rien. La lumière du phare passa à nouveau. L'homme que j'avais pris pour mon père me tournait le dos, occupé à sonder les murs avec le manche d'une pelle ramassée par terre. Valerino me poussa violemment sur une chaise. Une nouvelle fois, il pointa son revolver tout près de mon visage. « On va être clair, petit con. Il est 2 heures du matin. On a toute la police de France au cul, tu le sais. Tu cherches à gagner du temps, alors je t'explique la suite des opérations. Tout d'abord, nous allons retirer l'échelle de bois et boucher l'issue de ce tunnel. Tu te souviens, ce boyau plus étroit? Même s'ils envoient une centaine de flics dans ces souterrains, il n'y a aucune chance qu'ils puissent remonter jusqu'à cette ferme. Ensuite, on va attendre encore un peu, tant qu'il fait nuit. Si dans 2 heures, vers 4 heures du matin, aucun souvenir ne revient, tant pis pour toi. Tu ne nous seras plus d'aucune utilité. Il est hors de question que l'on attende avec toi que le jour se lève avec tous ces flics sur l'île. On va tous filer de nuit. Pas par le souterrain, par la porte de cette ferme. Un bateau nous attend tout près, dans une crique tranquille. Tu vois, petit con, on préférerait tous foutre le camp avec le trésor. Mais si on ne le trouve pas, tant pis. On décampe, mais sans rien laisser derrière nous. Tu m'as compris. On a récupéré toutes les preuves contre nous dans le dossier du notaire, c'est déjà ça. Tu as le marché en main, alors je te laisse te concentrer. Il éloigna le canon de son revolver et continua. « Thierry, Maxime, vous allez me boucher ce tunnel et remonter l'échelle. » « Maxime ?» C'était donc le prénom de cet homme qui avait pris la place de mon père. « Maxime Prieur ? Son meilleur ami ? Comment était-ce possible ?» Les deux hommes descendirent par la trappe. J'entendis vaguement sous mes pieds un bruit de terre que l'on charrie et que l'on tasse. Ils bouchaient le tunnel. Jamais on ne me retrouverait ici. Valerino était assis à 3 mètres de moi, le regard immobile, fou, ne lâchant pas son arme. Brigitte fixait la fenêtre sale. Régulièrement, son visage blanc s'éclairait de la lumière du phare, comme un fantôme. Les minutes s'écoulaient lentement. Je n'avais plus aucune envie de me replonger dans mes souvenirs. Pourtant, malgré moi, des images de ce dernier repas revenaient. Je tentais de les chasser. Je voulais faire le vide. Je n'étais pas stupide. Valerino avait été clair. Si je ne me souvenais pas, je ne serais plus d'aucune utilité pour eux. Mais si je me souvenais, si je leur livrais le trésor, quelle différence ? Aucune. Je ne me faisais aucune illusion. Ils avaient prévu de se débarrasser de moi, avec ou sans la folie Mazarin. Encore de longues minutes. Thierry et Maxime Prieur remontèrent. C'est fait, on est tranquille. Le silence, lourd, la pénombre, éclairée seulement par intermittence de la lumière du phare. Trouver une idée. Une idée pour fuir, sortir de là, leur mentir. Leur mentir était ma seule chance. Mais il me fallait trouver quelque chose de cohérent. De longues minutes encore, Brigitte explosa la première. Il ne dira rien. Vous ne vous rendez pas compte que tous ses souvenirs se mélangent, qu'il est complètement perdu? Comment voulez-vous qu'il se rappelle?
Tu suggères quoi? Demanda Valerino d'une voix méprisante.
Tout lui dire, répondit Brigitte. Tout lui expliquer. Il a bien le droit de savoir après tout. Qu'est-ce que ça change maintenant? Cela lui permettra au moins de remettre de l'ordre dans sa mémoire.
La voix de Maxime Prieur, celle que je prenais il y a encore quelques heures pour celle de mon père, s'exprima.
Elle a raison, ça peut marcher, et on risque plus rien à présent.
Ok, fit Valerino. Qui s'y colle?
Moi, répondit sans hésiter Brigitte. Moi. Tu veux bien qu'on s'isole à côté, Jean-Louis?
Elle désigna du regard une des deux portes de bois.
Vas-y, lâcha Valerino.
Brigitte se leva. Je la suivis. Dans l'instant, je pensais que Brigitte rusait, qu'elle était en train de trahir ses complices, qu'elle imaginait une astuce pour me permettre de fuir. Derrière la porte, il y avait une issue. Une fois seule avec elle, elle me laisserait partir. Brigitte était mal à l'aise. Elle n'était pas une tueuse. Je sentais bien qu'elle détestait Valerino. Elle ouvrit la porte. Mon espoir s'effondra. C'était la porte d'un cellier. Une minuscule pièce de 2 mètres sur 1. 4 murs de pierre, épais. Aucune issue, ni fenêtre, ni autre porte. La pièce était remplie de caisses en bois dans lesquelles étaient entassées des bouteilles de vin poussiéreuses. Tout ce Capharnaüm semblait n'avoir pas bougé depuis des décennies.
« Assieds-toi, » me dit Brigitte.
Je m'assis sur une caisse de vin. Brigitte fit de même. Elle ne referma pas la porte, mais nous bénéficions tout de même d'une sorte d'intimité. Brigitte baissa les yeux, sans me regarder.
« J'ai de lourds secrets à te révéler, Colin.